Hello à tous, je suis Mélodie Schmaus, fondatrice de Cause, une agence digitale au service de l'impact. J'ai créé le podcast Business Positif suite à plein d'échanges avec des entrepreneurs sociaux et des chefs d'entreprise en quête de sens, et je me suis passionnée pour la question de l'impact positif comme opportunité ou contrainte business. Avec Business Positif, je pars à la rencontre de ces entreprises qui réussissent à allier rentabilité et impact et à se développer de manière pérenne. On parle de leurs histoires, de leurs stratégies, de RSE ou encore des outils digitaux qu'elles utilisent. Et vous y trouvez des astuces à mettre en place concrètement dans votre structure, mais aussi de l'inspiration et de la créativité. Parce que oui, ce sont souvent des personnes qui inventent de nouveaux modèles. J'essaie de poster deux fois par mois les mercredis. Le plus simple est de vous abonner sur votre plateforme préférée pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort. Et n'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je cause avec Stéphanie Goujon, directrice générale du French Impact, qui vous parle de l'importance de votre écosystème pour réussir à vous développer. Elle définit le French Impact comme un créateur de passerelles entre les différents mondes. On parle de son parcours bien sûr, et surtout de plein de clés concrètes quand on est dans l'impact, comme réussir à s'ancrer localement en travaillant avec les acteurs du territoire, ou encore utiliser le lobbying positif pour échanger avec les élus et contribuer à faire évoluer la loi. On parle aussi de la recherche de financement et du fait qu'il y a aujourd'hui une problématique de rencontre entre l'offre et la demande. Les financeurs disent qu'ils sont en recherche de projets, les projets disent qu'ils sont à la recherche de financement. Stéphanie a une énergie communicative et vous risquez de ressortir de cet épisode avec la patate. Comme vous le voyez, c'est un épisode qui est un peu particulier parce que c'est pas un entrepreneur directement qui vient nous parler ni un directeur du développement durable. Pour autant, il va y avoir plein de clés et j'ai vraiment hâte de savoir si ça vous a été utile. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange et les conseils précieux que Stéphanie vous partage. Ah et au fait, n'hésitez pas à laisser vos remarques et à mettre 5 étoiles au podcast s'il vous a plu, ça m'aide toujours beaucoup.
Bonjour Stéphanie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Business Positif.
Bonjour Mélodie.
Je suis hyper contente de pouvoir parler avec toi parce que tu as un parcours qui est hyper inspirant qu'on va découvrir pendant cet échange parce que c'est aussi hyper intéressant de parler du French Impact et de ce qu'est cette association. C'est un peu particulier parce que généralement c'est plutôt des entreprises ou des directeurs RSE ou marketing que je vais interviewer dans le cadre de ce podcast pour vraiment parler de leurs actions terrain, comment ils ont fait pour se développer, etc. Mais je trouvais ça intéressant de faire ce pas de côté qui avait été proposé par l'agence Relations Presse, donc par Léo, qui s'appelle Léo, qui nous écoute même là. Parce que je pense qu'il y a plein de choses à raconter de ton point de vue, du coup, de présidente du French Impact.
Alors, directrice générale.
Directrice générale, c'est ça. J'allais dire justement, voilà. Non pas présidente, directrice générale justement du French Impact. Est-ce que, pour commencer, tu peux me dire ce que tu entends par ce credo de l'association qui est de créer des passerelles entre plusieurs mondes qui ne se comprennent pas souvent ?
Ah bah ça part du constat que effectivement il y a des univers dans notre monde, hein, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même métier, on n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous la même formation et que ces mondes gagneraient à se parler davantage pour résoudre les grands enjeux de notre temps, hein. On peut penser surtout dans l'actualité immédiate aux enjeux de biodiversité ou de réchauffement climatique, on voit bien qu'il faut rassembler autour de la table à la fois l'univers des décideurs publics, l'univers de l'éco du monde économique classique, traditionnel, et enfin l'univers de ce que nous on appelle les innovateurs sociaux et environnementaux, c'est-à-dire souvent des gens qui ont pris des chemins de traverse, qui ont désobéi par rapport à la règle pour inventer des nouvelles solutions, qui parce qu'ils sont peut-être de taille plus modeste, bah, sont plus agiles, plus en prise avec l'économie de proximité, avec le terrain, et donc oui. Ont pu, innovation sociale, innover. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est créer effectivement les conditions de la rencontre entre ces trois univers, pour que on puisse très concrètement résoudre des problèmes comme ceux que j'ai cités. On peut aussi parler de tout ce qui est autonomie et lutte contre la dépendance, réussite éducative, tout le volet aussi d'une économie plus inclusive, des mobilités douces. Voilà, pour travailler sur tous ces champs-là, il faut y aller à plusieurs. Ça s'appelle la coopération, en fait. Hein.
Oui, bien sûr, c'est ça, créer la rencontre, créer les conditions de la rencontre, c'est hyper, on va aller un peu plus loin là-dessus. Je veux bien, juste avant, que tu me rappelles un peu la genèse et puis l'histoire du French Impact. De quoi il est né? Est-ce qu'il y a eu quelque chose à un moment qui s'est passé?
Bien sûr. Alors, la genèse, en fait, French Impact est né en 2018 et est issu d'une initiative gouvernementale. Ça a été lancé au niveau du ministère de la Transition écologique et solidaire. À l'époque, il y avait écologique et solidaire dans l'intitulé. Donc, avec cette vision que, en effet, il y a des solutions qui existent sur les territoires, qui sont souvent issues de la société civile, et que ces solutions, elles méritent de grandir, de devenir des solutions nationales, voire d'inspirer les politiques publiques. Et du coup, pour se structurer de manière opérationnelle, c'est une association qui s'est créée. Donc, c'est l'association French Impact que je dirige depuis son lancement, que j'ai contribué à lancer suite à cette impulsion gouvernementale, sachant que l'idée du French Impact était dans les engagements du candidat Emmanuel Macron devenu président de la République sous le vocable d'accélérateur national d'innovation sociale. Et si on fait une métaphore, on peut dire que l'ambition était, toute proportion gardée par rapport aux univers qui ne sont pas les mêmes, était de faire la même chose que la French Tech, mais pour l'économie à impact. Alors, oui. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce que la tech, c'est un moyen et l'impact social et environnemental, c'est une finalité. Mais voilà un peu pour camper le jeu et la genèse. Et donc là, on est 3 ans plus tard. Et 3 ans plus tard, on a, en fait, nous, on fait 3 choses. Hein. On identifie des projets prometteurs sur les territoires dans le champ des transitions, donc sur tous les champs que j'ai pu citer au préalable. Et ces projets, on les identifie avec des partenaires locaux. Hein. Ce n'est pas moi, depuis Paris, derrière mon site internet, qui sais ce qui est bien comme circuit court ou ferme urbaine.
Il y a 27 territoires qui sont labellisés, de ce que j'ai pu voir. Donc, du coup, vous avez à chaque fois des partenaires locaux. C'est qui ces partenaires, par exemple?
Alors, ces partenaires locaux sont des collectifs, là aussi. Tu sais, nous, on promeut la coopération, pas du tout parce que c'est bisounours, mais parce que ça a été prouvé par des chercheurs à Harvard, c'est la stratégie gagnante. Voilà, c'est la coopération. Alors, tout le monde l'a pas encore compris, mais ça va venir. en fait, nous, on a effectivement labellisé 27 collectifs territoriaux, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont décidé de se mettre ensemble. C'était finalement plus girondins que jacobins. Hein. C'est pas nous qui avons, au niveau de Paris, mis des cases à cocher. Nous, après, on a jugé la robustesse du collectif. Et dedans, il y a toujours les décideurs publics. Même s'ils ne sont pas tout seuls, hein, l'idée n'était pas de labelliser des agglos, des choses comme ça, mais il y a toujours les décideurs publics, soit au niveau régional, soit au niveau de l'agglomération. Il y a souvent les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, parce que lot de porteurs de projets est issu de l'économie sociale et solidaire. Il y a des entrepreneurs sociaux, et puis il y a des entreprises classiques aussi. C'est vraiment des acteurs sur le terrain qui ont décidé de se mettre ensemble. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'ils ont identifié dans notre objectif d'impact, on leur a demandé d'identifier des défis clés pour eux sur leur territoire. Et c'est ça qui donne lieu à ces projets. En fait. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui, on a 27 collectifs territoriaux, mais on anime finalement 600 projets sur ces territoires. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de faciliter leur l'accès au financement. Tu as dû entendre comme moi... qu'il y avait un plan de relance de 100 milliards d'euros,
qu'il y avait des gros sujets. Donc.
Voilà, il y a le patron de BPI qui dit qu'il y a plein d'argent, mais où sont les projets? Et nous qui sommes sur les territoires, on entend il y a plein de projets et où est l'argent? Voilà, donc ça c'est notre deuxième grande mission une fois qu'on a identifié ces projets, c'est comment on peut finalement, là encore faire passerelle et résoudre, si tu veux, l'asymétrie qu'il peut y avoir entre ces annonces qui sont faites et l'argent qui est véritablement là, hein, et le fait qu'il y ait des retombées réel, rapide, sur ces projets de territoire qui sont pour nous, et c'est notre credo aussi, des formidables leviers pour la transformation et pour la relance. Parce que c'est vrai que c'est des projets qui transforment le modèle économique et qui ont à la fois l'impact pour nous, c'est quoi? C'est la triple performance, c'est-à-dire que oui, il y a de l'économie et ça génère des emplois non délocalisables. Hein, on peut citer cette formidable initiative à Romans-sur-Isère, le groupe Archer qui relocalise l'industrie de la chaussure.
Ouais.
Hein, 1000 employés, hein, c'est pas. Voilà. Donc c'est du visible en plus pour les populations qui sont parfois délaissées. Hein. Donc bien ça, sûr. C'est très important. C'est plus soucieux, c'est une performance sociale parce que souvent, voilà, on prend des gens qui étaient éloignés de l'emploi, il y a l'insertion, ou en tout cas, on a une attention aussi à ce qu'il y ait une organisation peut-être un peu plus participative, beaucoup de dialogue. Et puis, c'est à la fois plus écolo, c'est vraiment cette triple performance économique, sociale, environnementale, parce que ces projets de territoire, comme ils sont en prise directe avec leur environnement, il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas le grand écart où quand tu es dans un grand groupe, c'est loin et tu prends des décisions sans vraiment savoir quel est l'impact de ta décision.
Ah ben
là,
clair.
De facto, voilà, voilà. Et donc, nous, on dit, mais c'est, tu sais, on a cet aphorisme qui marche bien, donc je livre cette jolie punchline. Pour avoir des licornes, il faut déjà avoir des très jolis poneys. tu sais, on parle, là, les licornes, c'est le grand leitmotiv. Et, voilà, et c'est extrêmement important.
Et pour revenir sur ces clés. Identifier sur les territoires, ces sujets clés sur les territoires, est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns? Parce que pour tout te dire, hier, je suis au conseil de développement de l'Aglopole de là où je suis moi. Enfin, pour tout dire, c'est l'Aglopole de 7, où il y a des sujets passionnants. Conseil de développement hier, donc en tant que citoyenne, avec 4 grands sujets phares, voilà, et dont un qui est évidemment ce dont on parle aujourd'hui, donc c'est assez sympa. Et du coup, avec des sujets clés pour cette aglopole, donc typiquement, il y a les temps de taux, il y a une partie touristique, il y a une partie culturelle, il y a un arrière-pays qui est un peu oublié, il y a une envie d'attirer des entreprises innovantes, comment on fait, etc., avec ce qu'on est comme territoire. Donc du coup, moi, j'ai pu voir en direct ce territoire de Sète et les questionnements qui se posent. Est-ce que tu peux me citer comme ça, parce que chez nos auditeurs, il y a des gens partout en France? Des clés de territoire qui ont été identifiées, enfin des clés de sujets par territoire.
En fait, la beauté de French Impact, mais aussi parfois sa complexité, c'est pas évident dans un monde, et c'est ça que c'est bien d'avoir un peu de surface d'expression, c'est qu'on touche beaucoup de secteurs. Donc te dire qu'est-ce qui a émergé de grandes thématiques des territoires, il faut le replacer dans le contexte, c'est que c'était à la base un appel à manifestation d'intérêt qui émanait du ministère de la Transition écologique et solidaire. Oui. Donc on a eu beaucoup de projets qui sont sur les enjeux de mobilité douce.
Okay.
Hein, donc voilà, des lignes de, par exemple, on a une super initiative et peut-être ce serait intéressant pour cette qui monte des lignes de covoiturage comme des lignes de bus entre des zones rurales peu denses et des agglomérations.
C'est un des grands sujets des groupes de travail. Donc oui.
Et ben voilà, tu vois. Et puis il y a plein de choses bien sûr sur le vélo, pour pouvoir rendre son vélo électrique. Enfin, on a plein de projets, mais canon là-dessus. Il y a tout ce qui va être revalorisation des déchets. Dans le cadre de l'économie circulaire, il y a une très belle initiative qui est pas à 7, mais bon, qui est pas très loin, sur la Méditerranée, à Marseille, les alchimistes qui font du compost, voilà, que tu connais peut-être, du compost avec nos déchets alimentaires. Voilà, parce que c'est beaucoup de choses sur la relation des déchets, aussi au niveau du BTP qui ont émergé. Il y a un autre sujet qui va être sur l'agroécologie, tout ce qui est circuit court, alimentation durable. On a une initiative canon à Lyon, une coopérative qui s'appelle GRAP, qui mutualise pour les agriculteurs qui veulent se lancer en circuit court, tous les services dont ils ont besoin. Tu sais, un agriculteur, il ne sait pas forcément être commerçant, faire la logistique. Voilà, lui, il faut qu'il s'occupe de ses champs, quoi. Et eux, ils sont mis en coopérative et ils couvrent, je crois, une centaine de métiers, tu vois, parce qu'un circuit, il y a plein de gens dans un circuit. Donc ça, c'est vraiment, voilà. Donc c'est un très, très beau sujet. On a, je crois, une centaine de projets qui sont liés à l'alimentation durable, à l'agroécologie. On a des projets aussi sur tout ce qui est lié à la dépendance, l'autonomie. Tu sais qu'on a une population qui, voilà, il y a un peu au niveau démographique, une population qui est quand même vieillie. On va avoir, je crois que les chiffres, c'est 4 millions de personnes en 2050 qui seront en perte d'autonomie. Donc il faut faire, voilà, il faut se bouger au niveau de l'habitat, des habitats partagés, au niveau aussi de l'activité physique et sportive. Moi, c'est un grand credo. Le sport est une école de la vie. On a un partenaire super qui s'appelle l'Agence nationale du sport, qui avec qui on bosse là-dessus. Et en fait, tu sais que le sport peut aussi être un outil, un enjeu de santé publique. On l'a vu avec la crise Covid encore plus. Et ça permet de maintenir aussi son équilibre pour les personnes âgées. Il y a des associations comme Ciel Bleu qui promeuvent l'activité physique adaptée et ça permet d'éviter les chutes. Et ça, typiquement, c'est super en termes d'impact parce que ça évite des coûts d'hospitalisation au-delà du coût humain, bien sûr. Et donc, en fait, c'est vraiment du gagnant-gagnant-gagnant. C'est ça l'impact. Hein. Gagnant pour les gens, gagnant pour la société.
Ça,
aider à gagnant pour la planète. Voilà. Et ça marche parce que, qu'encore une fois, ça part d'une économie de proximité, d'une économie de territoire. Voilà un peu les grands domaines. Réussite éducative aussi. On a pas mal de choses, tout ce qui va être mentorat, dont vous avez dû entendre parler. Mais okay, après, génial. Nous, voilà, c'est nos grandes thématiques, mais on sait qu'on peut être approché aussi parfois sur d'autres thématiques. Et vraiment, c'est les territoires qui, quelque part, co-construisent French Impact. Nous, on appuie notre programme d'animation en fonction de ce qu'ils nous disent. Donc, on essaie déjà de...
Moi, par exemple, imaginons, je suis une entreprise à impact située à Nantes. Je suis en train d'écouter ce podcast et je me dis, ça a l'air vachement sympa, French Impact. Je fais quoi, en fait? C'est genre, je vais sur le site, je contacte, il y a des appels à candidature pour rejoindre.
Ouais, alors, à Nantes, on a un coordinateur, donc on a un territoire labellisé French Impact, un coordinateur qui est les Écosolises, qui est un sublime tiers-lieu avec plein d'activités. Ouais. Et il y a deux manières de faire. En fait, le plus simple, effectivement, c'est d'aller nous contacter, d'aller sur le site de French Impact, parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites en direct sans passer par les Écosolises ou quoi que ce soit. Mais après, l'idée, c'est que nous, on connecte au collectif, à l'interlocuteur local, pour que, voilà, il y ait à la fois cette dynamique territoriale et puis ce lien avec, entre guillemets, le national. Mais donc, d'aller sur le site, sur l'adresse contact, nous bien sûr on répondra. Et donc vraiment, ce qu'on fait, c'est de les aider à travailler en synergie par rapport aux 600 projets qu'on anime sur leur thématique, faciliter cet accès au financement public et privé. Et la troisième chose qu'on fait, qui peut intéresser ton entreprise à Nantes ou ailleurs, ou à Figeac ou à Strasbourg, c'est de connecter ces projets aux administrations et aux fonctionnaires. Okay. Pour inspirer les services publics de demain, mais aussi pour contribuer à lever des freins réglementaires ou à guider un petit peu aussi le porteur de projet dans le maquis de l'administration.
C'est hyper intéressant et je veux bien qu'on fasse un petit zoom parce que c'est un podcast où j'essaie d'être le plus concrète possible parce que bon, c'est aussi un peu ma démarche pour tout dire, d'être vraiment dans l'action. Et du coup, là, on parle de lobbying positif quelque part et d'aller lever ces freins réglementaires, etc. Dans les faits sur le terrain, ça donne quoi par exemple? Est-ce que tu aurais un exemple concret d'une boîte et qui a vraiment même... quel est l'impact business sur la boîte derrière? Est-ce que c'est un truc qui lui a permis de se développer?
Bien sûr. Alors, je vais citer différents exemples. L'exemple le plus ultime, mais ça ne peut pas s'adapter à tous les coups, c'est pour une structure qui s'appelle Envie d'autonomie, qui recycle des aides techniques pour les personnes handicapées, donc les fauteuils roulants, avec un chantier d'insertion. Donc, c'est à la fois plus écologique parce qu'on ne jette pas le matériel, on le rénove, plus social parce qu'on met des gens éloignés de l'emploi, on les remet en activité, et plus économique parce que ça coûte moins cher pour le bénéficiaire. Et cherche l'erreur, la sécurité sociale ne remboursait pas, elle remboursait que les fauteuils roulants neufs. Alors que, comme moi, tu as entendu parler de trous de la sécu et de l'économie circulaire. Et donc, dans le cadre du programme, ça s'appelle Hacker Public, notre travail, un des programmes qu'on a sur le lien avec la fonction publique. Hacker, comme vous avez deviné, on a on fait parrainer, on fait faire du mentorat quelque part, des hauts fonctionnaires vers des dirigeants d'entreprises sociales. Et la marraine d'Envie Autonomie était à l'époque, c'était il y a un an et demi, numéro 2 de la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Et donc, elle a pu appuyer leur plaidoyer au bon moment, au bon endroit. Et donc, ça y est, la Sécu rembourse. Et donc, c'est toute une filière d'économie circulaire de matériel médical rénové qui peut se structurer. Après, j'ai d'autres exemples. Tu sais, c'est des histoires, c'est des rencontres humaines aussi. Ça crée la cohésion.
En fait, c'est le réseau. On parle souvent du réseau, sur le développement d'une entreprise. C'est apporter ce réseau de soutien, quoi.
Voilà, c'est un réseau de soutien. Et ça inspire aussi les fonctionnaires pour les services publics de demain. Ça, tu sais, t'as entendu parler de la réforme de l'ENA, etc. Et donc, il y a ce besoin d'amener une culture de l'action et de l'innovation sociale auprès des administrateurs. Tu vois, j'ai d'autres exemples. Un directeur du CNRS qui a contribué à réécrire les statuts d'une association qui s'appelle Toi à moi, qui mobilise les citoyens, qui est notamment à Nantes d'ailleurs, pour trouver des logements pour les SDF. On a un truc super à Paris, Montmartre, oui. Dans mon quartier, dans le 18e, qui a été aidé par la directrice du centre Pompidou pour avoir un lieu. C'est plein de belles histoires. Génial. On a un petit bouclette avec des verbatims qu'on va bientôt sortir. Okay. Et du coup, ça crée du lien, c'est du gagnant-gagnant, ça peut lever des verrous, faire sauter des verrous réglementaires et surtout, ça peut inspirer les services publics de demain. Tu vois, pour que je te racontais l'histoire des mobilités douces, la solution qui est proposée par ECOV, ils bossent avec plein de collectivités territoriales, mais ils pourraient bosser avec beaucoup plus. Et voilà, donc c'est vraiment ça notre but ultime.
Oui, bien sûr, très clair et hyper intéressant. Et du coup, prendre contact. C'est la petite parenthèse, mais un peu le côté, si des gens sont arrivés jusqu'ici et se disent, mais attends, comment je fais pour ? Ok, ça m'amène à deux choses. Quand même, il y a cette notion du French Impact et des entreprises à impact. Comment vous les repérez ? C'est-à-dire, je suis cette entreprise de Nantes, imaginons, je suis une autre entreprise qui se situe Nogent-sur-Marne, j'en sais rien. Et du coup, moi, je me considère comme impact, mais vous, comme entreprise à impact, mais vous, c'est quoi un peu les critères ? Ça, c'est première question. Et deuxième question, c'était hyper intéressant de parler du financement et d'un côté, il y a l'argent et on dit qu'on ne sait pas où le mettre, et d'un côté, il y a des projets et on dit qu'on ne sait pas où est l'argent. Est-ce que tu as une explication là-dessus ? Est-ce que les projets, je mets un peu les pieds dans le plat, mais est-ce que c'est que les projets sont peut-être un peu fragiles ? Est-ce que c'est qu'il y a une défiance de la pérennité des modèles proposés dans l'impact, tu vois, qu'est-ce qui explique que l'argent rencontre pas le projet ?
Alors, sur la première question, comment on définit l'impact ? L'impact aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a un peu à toutes les sauces, hein. C'est un mot valise et je pense qu'on pourrait passer sa semaine à aller à des groupes de travail sur la définition de l'impact. Il va y avoir des éléments qui vont être stabilisés, notamment dans le cadre du travail des investisseurs et de la mission de Finance for Tomorrow mandatée par Bercy. Donc nous, on est dans ces groupes de travail. Et c'est vrai que tu veux, il y a des lignes de tension entre... ce qui peut être l'impact pour un porteur de projet, ce qui peut être l'impact pour un investisseur. Donc, je pense que là aussi, il faut faire passerelle sur tout ça. Et nous, on va très certainement aussi écrire un petit peu rendre public, on va dire, notre doctrine sur comment on juge qui est de l'impact et qui n'en est pas. Et pour l'instant, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, au démarrage, il y a des collectifs qui ont été labellisés. Donc, il y a eu à la fois l'État qui était là, l'AVIS, qui est l'Agence d'innovation sociale, qui a été lancée là, il y a une dizaine d'années, et French Impact qui ont ont estimé qu'effectivement, il y avait une volonté de transformation, parce que l'impact, c'est aussi de la transformation du modèle. Et il y avait ce triple volet, économique, social, environnemental. On va dire ça, c'est nos éléments un petit peu intangibles. Et après, comment on fait maintenant qu'il y a plus de projets qui nous rejoignent, etc. Eh bien, c'est comme une sorte de comité d'engagement avec nos partenaires locaux. Encore une fois, comme nous, on est à Paris et pas partout sur les territoires, Paris est un territoire en soi, hein. On a besoin de s'appuyer sur les régionales de l'étape et qui, eux, vont savoir si l'entreprise, l'organisation, quel que soit son statut, a vraiment, au-delà de la déclaration d'intention, est vraiment dans l'action. Donc, il y a des intangibles, on ne va jamais aller aider un marchand d'armes, enfin, je te la fais courte, mais voilà. Donc, nous, du coup, si tu veux, il y a cette double sécurité d'avoir, d'une part, les différentes thématiques que je t'ai exposées, qui de facto sont dans la transformation et l'impact, quand on parle de nouvelle solidarité pour l'autonomie ou d'économie circulaire. Et puis, il y a ce filtre de partenaires locaux. Et voilà, jusqu'à présent, on n'a pas eu beaucoup de doutes. Mais
oui, vous êtes aussi identifié, voilà. Oui, bien sûr.
Oui, oui. Okay. Et donc, ta seconde question. Nous, ça fait donc 2 ans qu'on sillonne sur le sujet du financement avec un programme qui s'appelle Impact Finance. Et on a identifié en fait 5 freins à ce qui est effectivement à ce que les fonds qui existent soient plus mobilisables et mobilisés sur les projets de territoire à impact. Il y a un premier frein, il y a 2 freins côté entrepreneur, côté porteur de projet. Premier frein, c'est la méconnaissance des outils. En fait, souvent, les porteurs de projets, ils ne savent pas ce que c'est la finance à impact et ils s'arrêtent au mécénat, à la dette, au billet à ordre. Voilà. Donc ça, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille en partenariat avec la Banque des Territoires pour justement amener une sorte de formation sur ces sujets. Okay. Il y a un deuxième frein qui va te perdre, c'est la diabolisation.
Oui.
C'est-à-dire que tu as des porteurs de projets hyper investis, engagés, qui ont peur de s'ils ont des investisseurs, qui ont peur de perdre leur valeur et de perdre le contrôle. Et ils ont raison, il y a un risque. Ils ont raison, il y a un risque. Mais si on le sait, ils peuvent maîtriser leur risque. Et nous, on a des partenariats avec 30 fonds à impact qui sont sous bannière French Impact, qui sont partenariats avec tout. Et donc, ces gens-là mettent carte sur table. Oui, il y a des règles du jeu. Mais si tu les connais, ton risque... il est maîtrisé. Voilà, donc ça, oui. c'est vraiment ce qu'on observe côté entreprise. Côté investisseur, tu l'as dit, quelque part, c'est vrai que les investisseurs, eux, ils ont un couple qui est risque-rendement. Et pour prendre le moins de risques possible, ils ont tendance à aller vers les plus gros projets et ceux qui sont connus de tout le monde et ceux qui savent déjà super bien se vendre. Et donc, nous, on essaie de leur ouvrir les chakras pour qu'ils viennent aussi sur les territoires et que, encore une fois, s'ils veulent des licornes, bah, il faut qu'ils stimulent l'écosystème avec des très jolis poneys. Et donc, ce n'est pas en restant toujours sur les mêmes boîtes où ça fait monter les valorisations que ça va fonctionner. Donc ça, c'est un des freins, hein, c'est d'ouvrir un peu les chakras et de montrer qu'il y a des projets prometteurs, porteurs sur les territoires.
Et peut-être leur redonner aussi le sens et leur utilité, c'est-à-dire que c'est aussi... moi, c'est un des sujets qui m'intéresse et m'interroge beaucoup, le financement et l'investissement et les investisseurs. Ouais. On aurait envie que ce soit leur rôle de à la fois aller vers des boîtes qui sont peut-être plus sécurisées pour eux et qui leur assurent des belles sorties, et en même temps, du coup, réinvestir ça dans des boîtes qui, elles, ont besoin de ce coup de main et qui ne survivront pas toutes, on le sait, mais ça fait partie de l'économie, quoi.
Oui, c'est vrai, mais ils ont des théories d'investissement et donc des modèles économiques derrière.
Oui.
Qui fait qu'ils privilégient, si tu veux, c'est des tickets qui sont plutôt à 1 million d'euros, quoi. C'est rare de trouver en fait des fonds qui soient vraiment dans l'amorçage. Alors il y a les historiques comme Fitreuse, comme France Active, il y a Founder Future qui s'est lancé, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et du coup voilà, ça mène à un autre point, c'est un travail que nous on essaye de faire toujours dans cet esprit de passerelle, c'est de mieux articuler les différents types de financeurs. Parce qu'il y a des structures comme les fondations d'entreprise qui, elles, finalement, elles s'en foutent du rendement, elles ne sont pas dans le rendement. Donc, elles financent du risque et de l'amorçage quelque part.
Bien sûr.
Et donc, on pourrait beaucoup mieux travailler avec elles pour qu'elles puissent faire du mécénat à impact et qu'elles financent un peu les émergences sur ces territoires. Il y a tout ce qui est crowdfunding. Que ce soit les Ulule, Kissimbambang, etc. Nous, on a à Marseille, on les a mis autour de la table parce que justement, ça génère un écosystème un peu vertueux d'avoir tous ces financeurs et ça rassure aussi les investisseurs de voir qu'il y a toute cette chaîne qui peut s'articuler. Il y a les business angels aussi. Tu vois, donc ça, c'est très important, encore une fois, de faire passerelle et de donner plus de visibilité à toute la chaîne des financeurs. Plus de visibilité entre eux, plus de visibilité pour porteurs de projets. Mais le sujet de la taille des projets, elle est difficile à résoudre. Parce qu'encore une fois, pour les fonds d'investissement, il y a une question de modèle éco derrière. Et faire des tickets à 50 000 euros, ça leur coûte aussi cher que de faire des tickets à 1 million d'euros. Donc pour les questions de frais de gestion, il y a un sujet. Voilà, et c'est là que l'État aussi a son rôle à jouer pour stimuler l'amorçage. Et je pense d'autres acteurs qui sont ceux que j'ai cités.
Ok, génial. Et pour parler, en fait, on est parti à fond dans le French Impact et j'en suis ravie, mais on parlera quand même de toi juste après. mais comme là, on a pas mal parlé des partenaires, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Il y a la Green Tech, l'incubateur. Ouais. Il y a plein de choses qui se passent dans l'ESS. Il y a le mouvement Impact France des entreprises directement. Est-ce que vous parlez en fait tous ensemble? Parce que justement, je me dis toujours, entre trouver les appels à projets, trouver les structures, savoir quelles structures correspondent, savoir si on correspond aux critères, est-ce qu'il y a à un moment donné, quelque chose qui va se fédérer? Est-ce que tu as l'impression que c'est dans les bacs? Ou est-ce que ça va rester un petit peu éparse comme ça? C'est assez dur d'avoir une réponse claire, quoi. Il y a toujours le réseau entreprendre, ils sont pas spécialement impact, mais bon, ils font des trucs. Enfin,
c'est super le réseau entreprendre. Alors, c'est une très bonne question. Je comprends, moi, quand je viens du privé, quand je suis arrivée dans ce secteur d'entrepreneuriat social et de l'ESS, il y a des méandres, c'est extrêmement dense. Alors après, tu retrouves aussi une densité dans l'économie dite classique et conventionnelle. Il y a plein d'acteurs qui vont tous t'expliquer qu'ils ne font pas la même chose les uns que les autres. Nous, on a un mapping, mais c'est un mapping interne, effectivement, de tous ces acteurs. Okay. Donc par rapport à ce que tu as cité, je pense qu'effectivement, moi, je peux te parler de nos spécificités. Moi, je suis l'ancienne vice-présidente du MOV, qui s'intitule Impact France. Eux, ils font du plaidoyer plutôt. Et c'est un mouvement d'entrepreneurs et ils font du plaidoyer, du lobbying. Nous, on est opérationnels, donc on n'ira pas faire du plaidoyer. On fait travailler les projets ensemble, ce que j'ai dit, faciliter leur accès au financement et le lien avec tous les fonctionnaires qui est, pour le coup, est assez distinctif. Après, tu vas voir ESS France, qui est l'entité qui représente l'ESS avec les CRES, qui sont comme un peu des consulaires, mais qui sont là aussi pour observer, pour recenser, pour être un point d'appui pour les structures ESS. Nous, on déborde de l'ESS, On n'est pas uniquement sur les statuts et on travaille, je te dis, avec des projets qui, voilà, qui peuvent avoir d'autres types de statuts à partir du moment où ils ont été quelque part agréés par les collectifs territoriaux.
On en revient toujours là.
Donc, okay. Est-ce qu'il va y avoir un... Et puis, il y a d'autres acteurs qui vont être sur les études. Voilà. Donc, en fait, il y a sûrement, hein, ça s'est déjà fait, il y a des mouvements de fusion par moment. Lata, dans la finance solidaire, FinanSol, qui a fusionné avec ILAB. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui vont fusionner ? C'est possible, honnêtement, j'en sais rien. Nous, ce que je sais, c'est que ce qu'on essaie, en tout cas, de faire, c'est de coopérer avec tout le monde, tous ceux qui veulent coopérer. Et surtout de ne pas aller là où ça existe déjà. Donc, ouais. A priori, ce qu'on fait, c'est parce qu'il y a un trou dans la raquette. D'abord, pour deux raisons. Un, pour être efficace. Et deux, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour aller faire la même chose que les petits copains. Mais dans les gens que tu as cités, on est très opérationnels avec un ancrage très territorial. Là, nous, on s'entend très bien avec le mouvement associatif, que des trucs canons, avec certaines crèches, on travaille en PACA, parce que là aussi, il y a des histoires de rencontres humaines. On a fait quelque chose hier avec l'UDES, qui est pour le coup le syndicat des employeurs de l'ESS. Ils ont fait une présentation extrêmement éclairante sur l'emploi dans l'ESS et les jeunes et l'emploi dans l'ESS. Je n'ai jamais vu autant de participants à un webinaire nous demander les chartes. Il y avait aussi la DGEFP qui est l'administration et le ministère du Travail. Tu vois, nous, on va vraiment réussir à mettre autour de la table des acteurs, entre guillemets, traditionnels de l'ESS, des acteurs de l'économie classique et les pouvoirs publics. Et ça, pour moi, c'est assez unique, quoi, ou complémentaire.
Oui,
quoi.
Et puis vous, du coup, vous êtes vraiment, comme tu dis, efficace sur c'est ça, ce que tu disais, c'est la mise en relation, très clairement, la mise en relation et l'accélération, notamment avec ce lien avec les pouvoirs publics.
Moi, j'adore Réseau Entreprendre, c'est génial ce qu'ils font. Il faudrait qu'on travaille plus avec eux, on avait été les voir au démarrage. Mais tu vois, il n'y a pas de raison qu'on aille fusionner avec Réseau Entreprendre non plus. Enfin, moi, je crois aux alliances. Je crois qu'il faut, quand j'ai démarré ma carrière, j'étais un peu plus vieille que toi, et on me disait « too big to fail », toi, les grosses boîtes, jamais ton... Depuis, il y a eu la crise suprême et tout ce qu'on sait. Et du coup, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête avec la pensée unique de la super grosse structure. En France, on a un amour pour les champions nationaux. Et c'est vrai que c'est très bien d'avoir des locomotives. Mais moi, je crois beaucoup aux alliances. Et au fait que ces alliances, elles peuvent aussi bouger en fonction des enjeux. Et qu'il puisse y avoir à la fois des académiques qui vont parler à des entrepreneurs, qui vont parler à des décideurs publics, qui vont parler à des grosses boîtes ou à des plus petites boîtes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette souplesse pour avoir cette agilité et d'avoir une réponse vraiment adaptée aux enjeux. Je comprends.
Oui, bien sûr. Et garder, plutôt que de s'absorber, garder cette spécificité.
Quand on fait la même chose, ça, on peut se poser la question de savoir. Quand on fait des choses qui sont plutôt complémentaires, je sais pas. En tout cas, je pense qu'il faut se garder une souplesse. Mais je comprends qu'on trouve ça hyper nébuleux quand on arrive, surtout les acteurs. Moi, il m'est arrivé la même chose.
Non, mais c'est ça. Je pense que c'est surtout... En fait, c'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi de l'impact. Après, pas besoin de fusionner tant que c'est clair. Non, mais écoute, on a justement un peu rebondi naturellement sur ton parcours. On en vient à 30 minutes d'échange et c'est juste là qu'on commence à en parler, mais c'est quand même hyper intéressant de savoir d'où tu viens, ce qui t'a amené là, ce qui a fait ton changement un peu, ton switch, on va dire, intellectuel et ta prise de conscience. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ?
Oui, alors c'est pas... C'est pas très original, hein. Donc moi là-bas, j'étais publicitaire pendant 10 ans, je fais une école de commerce. Et en fait, à la naissance de ma fille, je me suis un petit peu plus intéressée à tout ce qu'on appelait à l'époque le développement durable. J'ai l'impression que c'est une notion d'ailleurs qui revient un petit peu aussi, qui était vraiment assez prémisse. Hein, c'était 2007-2008, donc crise des subprimes. Et donc, dans la publicité, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, mais c'était pas encore le lieu où c'était le plus facile de pratiquer. Et donc, j'ai eu l'opportunité de contribuer à monter d'abord en tant que bénévole une association qui s'appelle l'Agence du don en nature, qui est absolument formidable, qui à l'époque était très très pionnière, qui utilisait des outils numériques pour collecter des invendus auprès d'industriels et les redonner aux plus démunis. Donc des produits neufs hein, qui venaient de chez SEB, chez L'Oréal, etc., de les stocker sur une plateforme numérique et logistique et de les redonner à l'Armée du Salut, au Secours catholique, etc., partout en France. Et donc ça, ça m'a plu parce que je suis très cartésienne et je me disais, mais c'est pas possible, il y a des produits neufs qui sont détruits alors qu'il y a des personnes sous le seuil de pauvreté qui n'ont pas accès à ces produits. Et donc je suis rentrée voilà, comme ça parce que je me disais que j'avais envie que ma fille, elle voit un peu les arbres. Et j'avais un souci écologique et le gaspillage me hérissait totalement. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et puis, pendant 10 ans, et j'ai commencé à m'intéresser à des enjeux un petit peu plus sociétaux. J'ai eu un mandat au Conseil économique et social et environnemental. À ce titre, j'ai travaillé un peu sur la transition écologique. Et comme je ne voulais pas être la DG acariâtre dans 25 ans de l'Agence de la Nature, qui aurait tout vu, tout vécu, qui aurait lancé le truc et tout, toujours considéré qu'on n'était pas propriétaire de son fauteuil et qu'on devrait incentiver les patrons d'ailleurs à travailler à leur succession et à la transmission. Et donc voilà, j'ai préparé tout ça et je me suis lancée donc, dans l'aventure du French Impact, telle je te l'ai décrite.
Okay.
Voilà. Pour le parcours vite résumé.
Est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, un exemple, un événement qui s'est passé à un moment donné qui t'a fait aussi un déclic sur cette importance de la coopération et de la mise en relation et de la passerelle, ou est-ce que t'as toujours été comme ça ?
Quand t'es publicitaire, déjà, il faut savoir qu'on est dans un métier, on est obligé de faire coopérer extrêmement. Voilà, tu es dans une agence, tu vois ce que c'est, on fait travailler ensemble des gens extrêmement différents. Donc moi j'étais directrice commerciale, donc j'avais en face de moi des clients qui avaient les mêmes études que moi, donc le même langage, et puis j'avais des créatifs qui eux n'ont pas du tout fait les mêmes études, et voilà. Et donc il y avait cette volonté finalement de justement avoir une faire le décodeur, faire la passerelle, ou quelque part aussi faire la tranche de jambon dans le sandwich, tu sais, c'est pas toujours évident. Bon. Ouais. Donc déjà, c'était... Voilà.
Avec les, aujourd'hui, en plus, peut-être avec la partie
voilà.
informatique.
Qui est encore un autre langage. Donc déjà, il y avait cette capacité, cette envie de contribuer à fédérer, finalement. Et donc après, ça s'est effectivement élargi avec l'Agence de la Nature, avec le Conseil économique et social et environnemental, où il y a 18 organisations. Enfin voilà, il y a des gens très différents. Tu apprends à travailler avec des syndicats de salariés, des syndicats de patrons, des environnementalistes. Enfin, et moi, je continue de penser ça, c'est-à-dire que dans mon caractère, je suis très opérationnelle, et donc pour être très opérationnelle et pour qu'il y ait des choses concrètes qui se passent, il faut coopérer, il faut faire travailler les gens ensemble. Ça ne veut pas dire, enfin, je veux dire, c'est très complémentaire d'un travail de militant. Il faut aussi des militants, des gens qui vont plus être sur la doctrine, enfin voilà, qui vont plus être sur de la doctrine, voire parfois du dogme, et c'est important d'avoir ça. Mais moi, je vais plus me situer sur pourquoi les choses avancent aussi concrètement. Bah, il va falloir faire parfois des compromis, en tout cas écouter, être dans le dialogue, ce qui veut dire aussi beaucoup ravaler son ego et ne jamais considérer que on a raison. Voilà, c'est la vérité, c'est finalement assez subjectif, sauf le réchauffement climatique, bien sûr. Mais voilà, du coup, voilà, c'est venu déjà dans mon métier, je pense, de publicitaire.
Ok, très intéressant, j'ai bien fait de poser la question. Alors j'avais plein de questions et au final on y a répondu un petit peu au fur et à mesure, donc super. Est-ce que tu as aussi des exemples ou un exemple d'une opération ou d'une entreprise qui a été accompagnée et où ça n'a pas marché comme vous vouliez, soit une négo ou justement une coopération qui n'a pas fonctionné, et est-ce que vous avez pu en apprendre ou tu vois les problématiques que vous avez
dans les difficultés qu'on va avoir, c'est de convaincre l'État, les institutions à financer de l'animation et de la coordination. Parce qu'en fait, il y a un paradoxe encore une fois sur le fait qu'il y ait de l'argent, mais l'argent, maintenant, tout le monde veut le mettre uniquement dans des projets. Et on oublie que derrière ces projets, il faut aussi qu'il y ait des humains qui puissent faire le lien et stimuler les écosystèmes, etc. Probablement parce qu'il y a pu avoir des abus à certaines époques. Mais là, c'est ce qui est compliqué pour nous aujourd'hui. Un des sujets sur lesquels on lâche pas, mais on a du mal à faire évoluer les mentalités, c'est de convaincre l'État de s'engager aussi sur de l'ingénierie et de l'amorçage et de l'animation. Parce que voilà, mais ça, c'est un frein, on va dire, assez structurel.
Oui, qui est assez important au final. mais qui n'est pas liée à un projet en particulier. Ok, très clair. Et pour finir sur cette liste de questions, j'aimerais bien que tu me racontes une journée type de Stéphanie en tant que directrice générale du French Impact.
Si, bah écoute, c'est un peu Shiva. Parce ouais. qu'on est voilà, encore une petite équipe et on va dire qu'on est plus avec du management d'influence à travailler avec plein de ministères, plein de fonctionnaires, plein de projets sur les territoires. Mais nous, on est une dizaine. Okay. Bah alors, je commence par mettre mon fameux collier vert. Enfin, je dis fameux pour ceux qui me connaissent, qui est un peu mon collier totem, qui est une grande chaîne verte fluo, voilà, qui me donne la pêche et qui symbolise mon attachement aussi à l'environnement. Donc c'est du plastique recyclé, hein, voilà. C'est toujours D'accord. du plastique, mais voilà. Et du coup, ce que je fais, c'est très clairement, il y a tout un boulot de faire connaître aujourd'hui l'initiative. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est comment, voilà, on peut au sein de différents écosystèmes parler du French Impact, parler de l'impact, faire rayonner l'innovation sociale et environnementale. J'ai toujours un rendez-vous dans la journée avec un fonctionnaire, quel que soit le ministère, parce que là aussi, c'est un de nos enjeux que de pouvoir voilà, créer plus de passerelles avec les décideurs publics. L'équipe, toujours un temps. Alors, en général, moi, c'est le lundi et le vendredi que j'ai mes temps managériaux de rencontrer tout le monde pour, voilà, un peu le lundi, on lance la semaine, tu sais, avec la fameuse réunion du lundi où tout le monde raconte ses priorités et ce qui peut, de temps en temps, lui faire des nœuds à l'estomac. Et voilà, et on fait jouer la solidarité du collectif oui. sur le sujet. J'ai mes habitudes chez Edgar, pour ceux qui connaissent, dans le sentier, avec une très jolie terrasse où j'ai voilà, je déjeune rarement seule, j'ai toujours des déjeuners de travail amicaux pour encore une fois bah, mieux travailler ensemble sur l'impact et je fais du sport et je fais du piano et j'ai une petite fille et un mari, donc tu vois après ça dans la journée. J'ai lu la recette du bonheur récemment que ouais. je te confie. C'est d'avoir réussi, je crois que c'est 6 ou 7 choses dans sa journée. Vers 17h, il faut que tu aies vérifié si tu as fait ces 6 ou 7 choses, sinon ta journée est foutue. Il faut avoir une activité, il faut avoir une activité intellectuelle. Il faut avoir une activité créative, donc moi je considère c'est le piano. Il faut avoir ouais. eu un moment de tendresse ou de convivialité. Il faut avoir eu un moment physique. Donc voilà, moi ce matin à 8h, hein, j'étais à l'aquaflow, hein, c'est du yoga sur l'eau. Il faut savoir retrouver l'enfant qui est en soi. Alors là, c'est là où je suis le plus nulle. Et il faut avoir eu un moment d'émerveillement.
Ok.
Voilà, donc il faut que tu... Si à 17h, il te manque une case, c'est la recette du bonheur, selon, je crois, le fondateur
de Jeune Harmonie. Je pêche sur l'enfant aussi.
Okay. Ouais, moi, je ne suis pas bonne sur l'enfant. Mais j'aime beaucoup cette recette du bonheur, de la journée épanouie, parce que voilà, on n'a qu'une vie et je trouve qu'effectivement, il faut tâcher de la vivre pleinement et d'être sur tous ces fondamentaux.
Eh bien, écoute, hyper intéressant. Me reste à te poser une petite question et puis les 3 questions de fin et on aura terminé. Il y a eu le forum de Giverny il y a quelques jours. On enregistre le 8 septembre et il me semble que c'était le 3. Où tu étais coprésidente, il est indiqué comme le premier rendez-vous annuel de la RSE. Est-ce que tu peux juste m'en dire quelques mots ?
C'est un forum qui est très singulier et très fort. D'abord, le lieu est absolument somptueux et il y a peu de moments où autant d'acteurs peuvent se poser un petit peu les valises et du coup échanger. Et il est singulier aussi parce qu'il y a tout un éventail d'acteurs qui est présent. Il y a beaucoup de ministres, donc beaucoup de décideurs publics au plus haut niveau. Enfin, il y avait Barbara Pompili, Bruno Le Maire, Sébastien Cornu bah, qui accueillait aussi, parce que c'est dans l'heure, Olivia Grégoire, Sarah Lahiri, enfin, j'en oublie sûrement. Il y a des grands groupes. Donc moi, j'étais coprésidente avec Antoine Cyr du groupe BNP Paribas. Il y a des associations. Il y a The Shift Project, il y avait moi dans mon groupe de travail, il y avait également Ronald Piac, un accélérateur de l'ESS à Lyon, enfin en Rhône-Alpes.
Okay.
Donc il est très singulier pour ça et donc ça permet quand tu bosses sur des propositions concrètes, donc nous c'était sur le financement de la transition dans les territoires, Ça permet de ne pas avoir des positions radicalisées, polarisées. Ce de quoi on a accouché, il y a 5 propositions très concrètes qui sont sur le site. C'est immédiatement applicable et appropriable. Vu la diversité des acteurs qui sont là, c'est du concret. Voilà. Et c'est un endroit magnifique. On peut y aller en train. Vernon-Giverny, allez-y. C'est exceptionnel, les jardins. J'en revenais pas tellement c'était beau. Voilà.
Ouais, ça a l'air quand on est sur le site. Ok, bah super, merci pour ces mots. Écoute, il me reste les 3 dernières questions. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil pour les auditeurs qui écoutent ce podcast, cet épisode ?
Vous pouvez tous changer quelque chose pour un monde meilleur et ça peut commencer aujourd'hui, notamment dans les achats. Acheter et consommer est un acte politique. Donc voilà, et acheter le moins possible aussi.
Voilà. Oui, d'accord, ok. Autre question, une musique ou un film qui illustre ta vision de ce qu'est l'entreprise ou le business positif ?
Un film que j'adore pour son positivisme, sa joie de vivre, qui s'appelle Jeanne et le garçon formidable. Je ne suis pas sûre que ça ait grand-chose à voir avec l'impact, mais dedans, il y a... Ouais. Voilà, il y a Jeanne, en plus c'est le prénom de ma fille qui explose, qui rayonne et qui vit sa vie pleinement. Ça parle du sida, donc c'est même si l'histoire elle est un peu triste, en fait c'est finalement ça l'est pas parce qu'on transcende tout ça et elle a une telle capacité de rayonnement qu'elle est dans le mouvement et pour moi, je sais pas si c'est l'impact, mais en tout cas elle est dans le sens de la vie.
Ok, génial, merci beaucoup. Et toute dernière question, est-ce que tu aurais un acteur de l'impact, une entreprise, une personne, quelqu'un qui pourrait être intéressant à interviewer pour parler business positif ?
Eh bien, je pense que ce serait très intéressant de parler à Ecov, Thomas Matagne, sur les mobilités, donc ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est de covoiturage, parce qu'en plus, il porte aussi en lui la notion de service public citoyen ou partagé, parce que ça se co-construit aussi avec les habitants d'un territoire. Pour moi, il est assez emblématique de tout ce qu'on vient de se raconter là. Il y a d'autres acteurs, bien sûr, mais en ce moment, je trouve que ce qu'il fait est assez phénoménal.
Génial, je lui ai parlé il y a 2 ans, je crois. Trop bien, très bonne idée en effet d'aller voir toute l'évolution. Bah écoute Stéphanie, un grand merci d'avoir pris ce temps pour partager tout ça, partager cette énergie aussi. C'est hyper agréable d'échanger avec toi. J'espère que ça va passionner les personnes qui nous écoutent autant que ça a pu me passionner là. Et puis, moi, je suivrai à titre perso vraiment ce que fait le French Impact parce que ça m'intéresse de voir comment ça évolue tout ça et qu'est-ce qui en ressort. Et puis, il me reste à te dire à bientôt, peut-être à 7.
Oui, merci Mélodie. Mais oui, il faut que je fasse ça avant l'hiver. À bientôt à 7 alors.
Voilà pour ma causerie avec Stéphanie Goujon. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté des clés pour votre business positif, votre politique RSE ou tout simplement des clés de réflexion. Si vous avez aimé ce podcast, ça m'aiderait beaucoup que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou toute plateforme d'écoute que vous utilisez et que vous en parliez à au moins une personne autour de vous qui a ou qui bosse pour un business positif ou bien qui a ou qui bosse pour une entreprise qui se pose des questions sur son impact. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Mélodie Schmoss, Mélodie avec un Y, si vous avez la moindre question ou remarque. Je suis toujours à l'écoute d'Axes d'amélioration. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.